Les Palous d'Antoine Gizenga et le MLC de Jean-Pierre Bemba ont officialisé leur rapprochement vendredi dernier à Kinshasa devant la presse. Objectif, conjuguer les efforts pour gagner ensemble les élections à venir. Quelle analyse faire de ces rapprochements? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons au studio professeur Jacques Djoli, le sénateur de l'opposition et inspecteur général du MLC. Bonsoir professeur Jacques Djoli.
Bonsoir.
Maître Blanchard Mongomba, il est communicateur des tribunes du premier ministre honoraire Adolphe Mouzito, cadre du Palou. Bonsoir Maître Blanchard Mongomba.
Bonsoir.
Et lui est au téléphone, c'est professeur Alphonse Bahindo, docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani. Bonsoir professeur Alphonse Bahindo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Rapprochement entre les partis lumumbistes unifiés et le mouvement de libération du Congo. Les deux partis ont officialisé leur rapprochement vendredi dernier à Kinshasa devant la presse après avoir échangé sur la situation politique du pays. Au cours de cet échange, les Palous de Gizenga et le MLC de Jean-Pierre Bemba ont discuté sur le processus électoral de manière à conjuguer des efforts pour gagner ensemble les élections à venir. Des détails avec Askenzik Diatayoro.
Au cours de cette rencontre, le Palou et le MLC ont évoqué la nécessité du respect du calendrier électoral publié par la CENI. Ils ont discuté sur la problématique de la machine à voter. Pour les deux parties, l'usage de cette machine doit requérir un large consensus de parties prenantes au processus électoral. Autre point de cette rencontre, interpeller le gouvernement sur la caution électorale et l'application de la loi sur le financement public des partis politiques. Luigi Gizenga, secrétaire permanent du Palou, qui a représenté son parti avec Adolphe Mouzito, fixe l'opinion sur le rapprochement avec le MLC.
Ce sont deux grands partis nationaux. Nous sommes en train de discuter quel sera le cadre de collaboration. Ici, nous parlons surtout d'enlever les différentes difficultés que nous pouvons trouver sur la voie de l'organisation des élections.
Fidel Babala, qui a représenté le MLC avec Alexis Lenga, donne le sens de leur rencontre avec le Palou.
La loi et la configuration tant politique qu'ethnique de notre pays nous incitent à aller vers une fédération de forces qui veulent réellement l'alternance dans ces pays. Nous allons continuer de contacter avec les uns les autres de façon à faire une fédération qui nous assure une victoire lors des prochaines élections.
À l'issue de cette rencontre, les délégations du Palou et MLC ont exprimé leur volonté de faire acte de leur échange aux organes de leurs partis respectifs pour la finalisation des attentes des deux partis.
Merci à vous, Askenzik Diatayoro, professeur Jacques Djoli, sénateur inspecteur général du MLC. Qu'est-ce qui motive ces rapprochements?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, Dieu et les ancêtres nous ont laissé un très beau pays, un grand pays, un pays riche. Plus de 60 ans après, qu'est-ce que nous en avons fait? Pas grand-chose. Or, ce qui transforme un pays, ce sont les hommes, ce sont les groupes politiques, les partis politiques. Donc, si vous observez la scène politique congolaise, les partis politiques n'ont pas encore assumé leur responsabilité vis-à-vis de la nation. Et c'est tout ce qui justifie notre analyse. Nous connaissons le Palou depuis longtemps. Aujourd'hui, le Palou, c'est un grand parti qui a un ancrage sérieux. Lorsque on change la règle de jeu, il faut aussi s'en changer les systèmes de jeu.
Là, vous faites allusion au seuil d'éligibilité des 1% institué par la nouvelle loi électorale.
Donc, nous allons vers des grands ensembles. Dans tous les cas, si vous observez l'analyse de cette loi, au cas où on aurait appliqué les seuils de 3%, il y aurait 6 partis qui auraient été éligibles. Et parmi les 6 partis, il y a le Palou. Si vous faites une projection à 2%, il y aura 21 partis. Et si vous faites une projection à Donc on aura 11 partis, et si vous faites une projection de 1%, on aura 21 partis. Et parmi ces partis, il y a des partis qui ont des ancrages. Donc il est important que le force politique, le force sociale puisse se rencontrer. Nous ne devons plus donner l'image ici d'un groupe de grégaires à la recherche de postes. Et sur ces points-là, chacun de nous a mené une réflexion. Le Premier ministre Mouzitou a mené une réflexion à travers des tribunes qui ont été publiées. Et nous sommes, en tant que patriotes, dit, il faut qu'on se raconte pour que finalement ces pays soient gérés avec un programme, avec une vision. Donc, comme l'a dit nos responsables, il faut qu'il y ait des élections. Personne ne doit nous arracher notre droit premier d'avoir des élections. Deuxièmement, ces élections-là n'appartiennent pas à un homme ou à un groupe ou à un organe. Ça appartient au peuple congolais. Nous devons contrôler ces processus. On ne peut pas nous amener une machine et nous amener comme des moutons. Donc, nous devons contrôler les processus. Nous devons contrôler les mécanismes du processus. Et pour ce faire, il faut que le parti politique se parle.
Parce que Jacques Joly, au stade actuel, peut-on parler d'un simple rapprochement entre les MLC et les PALOU, ou il s'agit d'une véritable alliance en vue d'une plateforme électorale?
Pourquoi vous parlez d'un simple rapprochement? C'est un grand rapprochement. Le PALOU, c'est un grand parti. L'UNC, c'est un grand parti. L'MLC, c'est un grand parti. Nous devons nous échanger.
Peut-on parler d'une plateforme?
Il ne faut pas commencer à mettre la charrue devant le bœuf. Donc, nous avons mis en place un cadre de concertation. Nous sommes en train de travailler. Et le secrétaire général, le secrétaire permanent du PALOU vous a dit, le premier secrétaire. Donc, ils vont faire rapport. Nous allons faire rapport à notre hiérarchie. Et nous allons avancer. Il faut que la démocratie se consolide ici et qu'il faut que le parti politique qui ont pignon sur eux. Vous savez, le PALOU a un ancrage dans l'ex-province de Leopoldville. Nous avons un ancrage dans l'Équateur et les autres provinces. L'UNC, la même chose. Nous allons continuer les discussions avec d'autres groupes pour que nous soyons maîtres de notre destinée et que personne, alors que personne, nous arrache le droit de désigner ceux qui vont diriger. Et s'il faut que nous dirigeons ensemble, nous devons avoir un programme et nous devons nous concerter.
Donc, Jacques Joly, oui, vous avez dit que vous connaissez bien les PALOU. Et qu'est-ce qui a poussé les MLC à opter pour les PALOU, un parti allié à la majorité présidentielle qui a co-géré avec le président Joseph Kabila durant ses deux mandats, et donc un parti qui devra, n'est-ce pas, assumer la gestion des 10 ans du président Joseph Kabila?
Mais ça, c'est votre lecture. Nous sommes allés voir le PALOU. Nous avons rencontré le PALOU en 2006. Et le patriarche Kizeng, à l'époque, nous avait dit, en tant que patriote, qu'il n'était pas bon qu'on divisât le pays. Il a fait une alliance avec l'AMP, et je crois que mon frère qui est ici à côté vous dira quelles sont les analyses et les armes qu'ils ont faites. Mais ils nous ont reçus comme des patriotes, on a discuté, et il y a des possibilités de construire un front commun pour que les élections se tiennent dans ces pays et que de forces qui puissent construire une alliance, une alternance crédible, puissent proposer un schéma au peuple congolais.
Vous avez toujours, l'MLC a toujours décrié, n'est-ce pas, la gestion de la majorité présidentielle. Dès lors que vous vous rapprochez du PALOU, n'est-ce pas une sorte de volte-face?
Mais pourquoi vous parlez de votre face? Si on écoute le Premier ministre Mouzitou, il fait des analyses. On est sur le macro-politique, bien sûr, mais il y a aussi d'autres aspects. On a parlé élections, on a parlé machine à voter. On peut aussi parler du plan de développement du Congo. Je ne veux pas entrer dans le détail de l'accord, mais je crois qu'après 10 ans de travail avec, au sein de l'AMP, le PALOU est suffisamment mature pour prendre sa décision et dire ce qu'il veut faire. Donc je ne peux pas parler à la place du PALOU. Mais en ce qui concerne les MLC, nous n'avons pas d'a priori. Pour nous, ce qui nous préoccupe, c'est la libération du Congo. Une libération politique, une libération économique, une libération sociale. L'état dans lequel le pays est exige que tous les compatriotes qui ont encore le souci de ces pays puissent discuter. Et nous avons la chance d'avoir de l'autre côté des cadres compétents qui peuvent discuter Merci. Avec d'autres pour que nous puissions trouver une plateforme politique capable de proposer un autre Congo par Merci. Rapport au Congo qui est aujourd'hui à nos yeux un pays totalement diminué et écrasé.
Merci Maître Blanchard Mungomba, communicateur des tribunes du Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito qui est cadre du Palou. Aujourd'hui, les Palou et les MNC se rapprochent. Comment vous vous entrevoyez concrètement cette coalition?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que nous avions suivi avec beaucoup d'attention le professeur Jacques Joly. Il a développé, il a montré le valeur que chacun de ces partis régorge, puisque aujourd'hui, nous devons reconnaître que les MLC est un grand parti politique qui a quand même fait ses preuves par rapport à la sauvegarde de l'unité de ces pays, puisque nous allons peut-être ici le rappeler que en 1998, lorsque Jean-Pierre Bemba a accepté de prendre les armes, c'était pour effectivement se battre pour sauvegarder, préserver l'unité de la République démocratique du Congo. Et le patriarche Antoine Gizenga, ici peut-être que il n'en est pas question peut-être de rappeler tout ce qui est son parcours, son combat par rapport à l'unité de la République démocratique du Congo, mais également pour l'indépendance.
Et donc vous avez un parcours presque similaire.
Je crois que le professeur l'a si bien dit. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui fait appel à chaque parti politique de pouvoir effectivement prendre ses responsabilités par rapport à l'avenir de ces pays. Nous sommes sans ignorer que nous avions eu des élections en 2006, nous avions eu des élections en 2011 et en 2016 en principe le mandat du chef d'État de l'État sortant était fini et que chaque parti politique en principe devrait se retrouver en face de l'autre pour essayer de discuter, de voir les éventualités, comment gagner ensemble, comment mettre en commun le projet pour construire un Congo, parce que très souvent nous avons l'habitude de dire que nous allons développer le Congo alors que nous oublions que le Congo n'a pas été encore construit. Donc ici avec les MLC, lorsque nous nous sommes rapprochés, nous avions échangé, discuté autour de toutes ces éventualités, entre autres la sécurisation de la partie est de la République démocratique du Congo qui continue à être visité par les forces négatives. Nous avions vu l'éventualité effectivement de la machine à voter, parce que nous sommes en train d'aller aux élections. Nous devons voir mettre en place les mécanismes qui vont contourner ou contrôler tout ce qui est mis en place par la CENI pour que nous ne puissions pas observer de mécanismes et des tricheries qui risqueraient de mettre en mal la volonté du peuple congolais. Mais également, nous avions décidé de la possibilité de voir la CENI observer de manière rigoureuse la date du 23 décembre, parce que, comme nous le savons, nous avions, ou la classe politique, ou si on veut bien le dire, la majorité, a violé la Constitution en ne nous donnant pas les élections dans le délai constitutionnel. Aujourd'hui, que on a trouvé quand même un accord pour se dire que au 23 décembre, nous allons finalement aller aux élections. Nous devons faire en sorte qu'il y ait une sorte de pression pour que la CENI ne nous amène pas à un autre glissement.
Maître Blanchard, la conclusion de l'accord entre les camps présidentiels et les Palous qui a donné lieu à la MP en 2006 lors du second tour de la présidentielle a été déterminant pour la victoire de Joseph Kabila. Les Palous à l'époque étaient perçus comme un défenseur, n'est-ce pas, des rois. Est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer à considérer ces partis comme tels, comme un faiseur des rois?
D'abord, ici je dois dire qu'on est au-delà de l'alliance que le Palou avait conclue avec la majorité présidentielle. Parce que en 2006, lorsque le Palou a conclu son alliance avec la majorité présidentielle, c'était une alliance qui allait de 2006 à 2011. Et lorsque nous sommes arrivés en 2011, le Palou avait jugé bon de continuer parce que il avait quand même géré avec le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, et que en 2011, les laisser pour aller prendre une autre direction n'allait pas être quand même logique. Voilà pourquoi le PALOU avait estimé qu'il fallait continuer, renouveler cette alliance. Voilà pourquoi en 2012, le PALOU avait accepté d'accompagner une fois de plus le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, pour une prochaine législature. Lorsque nous sommes arrivés en 2016, les mandats avaient pris fin, les PALOU étaient dans l'obligation de s'aligner comme tous les autres partis politiques pour voir comment s'aligner en ordre de bataille pour pouvoir gagner les élections à venir. Parce que aujourd'hui, chaque parti politique est censé se retrouver en face de ses militants, en face de la base, pour essayer de donner son bilan, essayer de vendre son projet, sa vision pour un Congo meilleur. Voilà pourquoi ici, lorsque nous nous rencontrons avec les MLC, nous avions estimé que aujourd'hui, il n'est plus question de parler d'une quelconque alliance parce que les mandats avaient déjà pris fin et aujourd'hui, chaque parti politique est censé vendre ce qu'il a de meilleur, c'est un projet, une vision qui peut faire à ce que les Congolais optent pour son programme.
Maître Blanchard, vous vous rappelez que le mandat du chef de l'État, Joseph Kabila, a pris fin depuis 2016, mais à partir du moment où les PALOU s'allient au MLC, que devient son alliance avec la majorité présidentielle, peut-on considérer comme étant une alliance déjà terminée, qui n'existait plus?
Mais je le dis, donc l'alliance était limitée dans la durée. De 2006 à 2011, c'était 5 ans. 2012 à 2016, c'était 5 années de plus que le PALOU avait accepté de renouveler.
Alors, peut-on tirer les conséquences, n'est-ce pas, de cette décision prise par les PALOU? Les PALOU participent au gouvernement, les PALOU est dans les institutions, les PALOU participent, n'est-ce pas, à la gestion des entreprises publiques. Va-t-il cesser sa participation dans ces différentes institutions?
Et si, peut-être que je ne suis pas mieux placé pour vous poser la question, mais si je vous demandais de me dire si aujourd'hui, messieurs Lisanga Bonganga, qui est au gouvernement, est dans quel cadre, et membre du gouvernement dans quel cadre. Donc aujourd'hui, nous considérons que si les PALOU est au gouvernement, si les PALOU est dans des entreprises publiques, c'est un peu comme nos amis de l'opposition se retrouvent aujourd'hui membres du gouvernement. Ils occupent des fonctions au sein des entreprises publiques. C'est par rapport à un accord qui a été signé parce que, tout simplement, on est allé au-delà du délai constitutionnel. Voilà pourquoi les PALOU se retrouvent dans des entreprises publiques. Mais dire que, puisque le PALOU se retrouve dans des entreprises publiques, est au gouvernement, les PALOU fait partie intégrante ou continue à être en alliance avec la majorité présidentielle, ça c'est très mal voir la chose parce que, comme je l'ai dit, l'alliance était limitée dans le temps. L'alliance était de 5 ans, une fois renouvelable, le PALOU avait accepté de renouveler, mais aujourd'hui nous sommes en 2018, on ne peut pas nous opposer une quelconque alliance parce que c'était effectivement limité dans les temps. Aujourd'hui, le PALOU est libre de pouvoir échanger avec qui il voudra, avec un parti politique responsable ou d'autres, pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons ensemble mettre nos énergies pour que nous puissions gagner les élections à venir.
Maître Blanchard Mungomba, PALOU, membre de la majorité, qui était membre de la majorité au pouvoir, conclut une alliance avec le MLC, parti de l'opposition. Les PALOU ne va-t-il pas gêner les MLC lorsqu'il faudra, n'est-ce pas, assumer les bilans de la majorité présidentielle?
D'abord, aujourd'hui, nous devons dire que les MLC n'est pas un parti qui est à l'opposition. Le PALOU non plus n'est pas un parti qui est à la majorité. Parce que je l'ai dit ici, nous ne sommes plus dans une... Pour parler d'une majorité ou d'une opposition, nous devons aller aux élections.
Lorsqu'il faudra lorsqu'il faudra assumer les bilans, comment vous allez procéder? Parce que vous êtes avec un parti qui n'a pas participé, n'est-ce pas, à la gestion du pays.
Non, mais le fait de se rapprocher ou le fait de nouer un accord n'exclut pas que chaque parti politique doit assumer ses responsabilités ou ne met pas à côté le fait que chaque parti doit défendre son idéologie politique. Le rapprochement, c'est un rapprochement qui nous permet effectivement de mettre en commun ce que nous avons pour essayer de présenter au peuple en termes de projet, en termes de vision pour faire développer ces pays. Merci. Mais également pour que nous puissions gagner ensemble pour, comme je l'ai dit, présenter un projet qui pourra faire rêver le peuple qui continue à croupir dans une misère.
Merci. Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris et enseignant à l'Université de Kisangani, votre lecture par rapport à ces rapprochements.
Bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que quand on voit ce rapprochement, on comprend tout de suite les contingences ou les impératifs liés à la loi électorale qui organise les élections dans ces pays. Les deux élections majeures, comme la présidentielle, on a là un scrutin majoritaire à un tour. Avec ce scrutin-là, c'est une mort subite. Donc, si vous n'êtes pas suffisamment bien placé pour être en première position, vous mourrez immédiatement. Donc, nécessité d'avoir des grandes coalitions, de rassembler le plus possible pour avoir des suffrages. Parce que je rappelle ici qu'en 2006 et en 2011, le président Joseph Kabila n'a jamais fait au premier tour plus de 40%. C'était autour de 42-40%, même un peu moins. Donc, on voit bien que les autres forces ont pu gagner plus de la moitié des voix. Et donc, ces gens-là peuvent chercher à se regrouper pour avoir la chance de gagner. Deuxièmement, l'élection législative, c'est que nous avons là aussi un scrutin qui est ici très majoritarisé avec un seuil de représentativité, ce qui fait que tous les petits vont être éliminés. Et donc, nécessité d'avoir également des grandes coalitions pour être représentés dans les chambres, si vous voulez, dans la chambre, disons l'Assemblée nationale. D'où la nécessité pour les gens de pouvoir se regrouper. Alors maintenant, c'est bien qu'on puisse se regrouper, mais on se regroupe sur base de quoi? On ne peut pas prendre, on ne peut pas faire des unions contre nature, on ne peut pas prendre de l'eau mélangée avec de l'huile, ça ne donnera pas grand-chose. Ou si vous voulez, il y a de mélanges qu'on ne peut pas faire. Parce que là, je vois que nous avons donc là un parti qui est de l'opposition, et nous avons un parti qui est au pouvoir. J'entends les mots qui sont dits là tout à l'heure. Il y a eu un accord de gouvernement qui a été mené, qui a été signé par les PALOU avec la majorité présidentielle, qui n'a pas été remise en cause jusqu'à ce jour. Et donc, on est là, un parti au pouvoir. Et ensuite, quand on regarde également du point de vue de leur idéologie, et je vois bien, si je dois ranger en connaissant un peu leurs idéologies respectives, comment elles fonctionnent, je classerai plutôt les PALOU vers la gauche de l'échiquier politique, tandis que les MLC, je le classerai plutôt vers la droite de l'échiquier politique. Alors là, on peut se poser la question, sur quoi va être fondé ce rapprochement? Quelle est la vision qui va les réunir? Quel est le programme commun de gouvernement qu'ils vont avoir? Quel est le projet? Et si on va plus loin en termes de leadership, est-ce qu'ils vont être d'accord en termes de leadership? On a là les MLC, dont le chef est encore le leader et encore en prison. Les PALOU, qui est très âgé, qui est presque en retraite, si on peut dire ça comme ça. Alors donc, après, il y a donc des dauphins dans chacun des partis là, ou plutôt de jeunes loups qui vont chercher à prendre le leadership. Et donc, je ne sais pas comment ça va se faire, concrètement. Alors si je laisse tomber tout ça, on peut se poser la question, pourquoi les PALOU a-t-il intérêt à faire cette alliance? N'est-ce pas simplement une espèce d'opportunisme, voyez-vous, parce qu'on sait voir les signes du temps, on voit que les navires dans lesquels on est embarqué commencent à tanguer, alors il faut se mettre du bon côté de l'histoire pour sauver la mise et éviter une traversée de désert. Peut-être que c'est ça qui dicte, si vous voulez, cette alliance de la part du PALOU, de pouvoir chercher ce rapprochement avec le MLC et profiter du fait de ce vent favorable pour l'opposition et la société civile. Alors, mais ça nous rappelle aussi une espèce de ce qu'on appelle déviation de la fonction des partis politiques. Les partis politiques semblent se transformer uniquement en machines électoralistes qui visent que le pouvoir pour le pouvoir. On ne s'intéresse pas à défendre des idées, des idéologies, des causes véritables à promouvoir. Mais on veut avoir le pouvoir. Il ne faut jamais rester en dehors du pouvoir parce qu'on ne peut pas avoir. Alors, si on posait la question maintenant aux militants de ces partis-là, que dirait-il de ce rapprochement? Je ne suis pas sûr que les militants du PALOU, et disons surtout de ceux du MLC, je ne suis pas sûr qu'ils seraient vraiment d'accord de pouvoir faire cette alliance avec les PALOU, dont on sait que c'est à cause du PALOU que les MLC a estimé qu'elle a perdu son élection en 2006. Hein. Et donc, je ne suis pas sûr que cela se fasse comme ça. Alors, si on revient encore au PALOU, on peut se dire qu'on est là dans ce que Eric Fromm disait, il y a une espèce de on recherche le pouvoir alors qu'on a le pouvoir, ça signifie qu'il y a il y a une certaine faiblesse que le Palou constate qui est en elle, en lui, et il veut compenser ça par rapport à ça. Et du coup, moi, je renvoie tout ça. Je dis qu'il faut que les gens aillent relire un peu Alain Garrigou, hein, le vote et la vertu, hein, pour apprendre à mieux faire, et peut-être aussi Rosan Valin sur les sacres du citoyen, parce que je pense que le citoyen peut sanctionner très 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 négativement ce type d'alliance qui me semble contre nature.
Professeur, vous avez évoqué, n'est-ce pas, les cas du président du MLC qui n'est pas là, et les leaders du Palou qui, n'est-ce pas, compte tenu de son âge, on n'est pas certain qu'il sera, n'est-ce pas, candidat. Et donc, les deux partis politiques, c'est vrai qu'ils ambitionnent d'accéder au pouvoir, mais n'ont pas des candidats déclarés à la présidentielle jusque là. Est-ce qu'il ne va pas se poser un problème de gestion, des ambitions dans cette coalition, cette plateforme?
Oui, ça c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On va avoir un gros problème de gestion des ambitions, puisque quand vous avez deux organisations qui sont décapitées, il faut pas mâcher les mots. Les présidents les leaders du MLC, ils ne peuvent pas gérer les partis depuis la haie où ils se trouvent, et les gens, ils vont pas attendre que lui revienne et tout ça pour lui laisser la place. Ils vont chercher à occuper l'espace. Et donc ils vont se tirer entre eux. Et ça va affaiblir les partis, on va pas bien entendre. De même du côté des Palous, puisque les patriarches lui-même, il est avec le poids de l'âge, il est dans les capacités de pouvoir continuer à briguer des mandats politiques, à continuer à travailler sur le plan, à gérer l'État. Les membres du parti, donc les autres cadres, vont se discuter pour assurer le leadership, prendre les dessus. Et pour ça, tous les coups seront permis. Et ça ne va pas donner une longue vie à une telle coalition. Si une coalition de ce type veut marcher, il faudrait que les gens puissent d'abord se mettre d'accord sur les idées, les actions prioritaires. Quel est le projet que l'on veut mettre ensemble? Quelle est la vision que l'on a du Congo? Tout ça. Une fois qu'on se met d'accord sur ça, après, alors on peut aller plus loin pour dire. Merci. Voilà. Si nous avons un tel projet. Quel profil d'homme nous avons besoin
merci,
pour pouvoir porter ces projets,
merci.
Pour porter ce programme. Alors,
merci, professeur Jacques Joly. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. On va l'écouter.
Joël Bongo Longondo depuis Matadi. Ce rapprochement est une montagne qui accouchera d'une petite bête. Que les MLC n'oublie pas que c'est le même Palou qui lui avait fait perdre le second tour de l'élection présidentielle en 2006 et cette fois-ci, il revient pour les distraire. C'est une déception pour les militants et les sympathisants du MLC.
Oui, professeur Jacques Joly.
Oui, je comprends.
Le prof Jacques, plutôt Alphonse Maïndo, a même posé la question de savoir si vous serez à mesure de convaincre vos différents électeurs par rapport à cette coalition.
Mais c'est nous qui gérons mieux nos militants que le professeur Maïndou qui gère mieux les étudiants. Vous savez, une analyse doit être... Effectivement, il a fait une belle analyse, mais je crois qu'on aurait pu, en répondant à notre jeune frère, commencer par là où le professeur Maïndou pose problème. C'est-à-dire que pour construire une alliance, il faut d'abord construire un pilier d'idées. Et nous avons eu une seule rencontre. Nous avons dit que nous allons continuer. Et en revenant sur ces préoccupations, d'abord, nous n'avons pas dit que nos partis vont disparaître. Je crois qu'en vous donnant tous les scénarios du seuil, que ce soit à 3%, à 2%, à 1%, l'MLC, le Palou se retrouve. Donc, le Palou va aller aux élections, notamment législative, avec l'étiquette Palou. L'MLC va aller aux élections avec l'étiquette Palou. Mais le professeur Maïndou le sait, que la proportionnelle vous met en face de 21 formations politiques. Donc ça impose nécessairement une coalition pour gouverner. Et ici, ce n'est pas le fait d'avoir 20%, c'est la capacité de négociation. Je crois que si vous prenez tous les pays qui appliquent la proportionnelle, la Belgique, l'Italie ou autres, il y a des coalitions. Maintenant, la meilleure des solutions, c'est une coalition idéologiquement solide. Mais quelle est aujourd'hui la place des idéologies? quelle est la capacité aujourd'hui des généralistes? L'idéologie du Palou, c'est le nationalisme, l'unité. C'est vrai que le Palou a toujours développé une approche de gauche. Mais la gauche aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce la social-démocratie ou bien le socialisme marxiste? Qui est encore marxiste aujourd'hui? L'MLC, c'est un mouvement libéral, mais qui est un fondement social, un fondement humain. Nous avons donc...
Le problème d'idéologie, c'est un faux problème.
C'est un problème dans la mesure où il faut construire d'abord un pilier politique. Et c'est ce pilier politique qui va vous amener dans une démarche programmatique. Et la démarche programmatique va vous amener dans une démarche électorale ou stratégique.
Donc, nous pour disons, ce Jacques Joly, si on a bien compris, c'est pas une coalition électorale, mais plutôt une coalition gouvernementale.
Nous allons d'abord nous battre pour qu'il y ait des élections, de bonnes élections, suivant le calendrier. Je crois que le contenu du calendrier est clair.
Et les candidats des deux partis vont se représenter sous le label MLC, Palou, ou sous le label de leur coalition.
Mais nous vous disons que nous sommes déjà capables, en tant que parti, d'avoir de candidats d'atteindre le seuil. Le Palou atteindra le seuil, l'MLC atteindra le seuil, l'UNC atteindra le seuil, l'UNAFEC atteindra le seuil, ou d'autres partis. Nous sommes encore dans un processus. Et ces 21 partis projetés, nous devons créer une majorité pour gouverner. Et nous allons gouverner autour d'un programme qui va nous amener. Dans ces pays, dans l'histoire politique de ces pays, même les MNC, Lumumba n'a pas eu la majorité. C'était une coalition avec le CREA et les autres. Et le mot même Palou, c'est le parti lumumbiste unifié qui connaissait des gens comme des Kiwewa, les autres, qui ont créé cette coalition. Donc, depuis la table ronde de Bruxelles, personne, même le PPRD, aujourd'hui, n'a que 60 candidats. Il a dû créer de la mosaïque. L'MLC, au plus fort de sa force, n'a eu 64%, 64 députés. Donc, aucun parti dans la sociologie politique du Congo ne peut avoir à lui seul la majorité pour gouverner. Et nous croyons que le Palou, étant un parti à une forte densité d'implantation, dans le seul qui est le sien, l'MLC, l'UNC et probablement d'autres, nous devons être capables en tant que Congolais de nous fédérer et de créer une coalition pour gouverner demain.
Merci. Maître Blanchard Mungomba, vous allez réagir à ces commentaires qui viennent de Pretoria.
Trésor Mandé, à partir de Pretoria. Concernant cette coalition des Palou et des MLC, j'ai trouvé ça une par cette aventure du fait que j'ai constaté que le Congo, notre pays, est victime des masques, des leaders constants. À chaque fois que certains groupes ou partis essaient de se rassembler autour d'une idée, c'est comme s'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent au fait. Au finish, après un temps, vous verrez qu'ils vont se départager suite à leurs intérêts égoïstes.
Oui, Maître Blanchard Mungomba.
Merci beaucoup. Je salue l'intervention de mon frère de Pretoria, mais je dois lui dire que si peut-être qu'il n'a pas lu le communiqué commun entre le Palou et les MLC, nous nous sommes fixés des objectifs. Comme nous l'avions dit, c'était une première rencontre, mais il y en aura d'autres. Parce que le tout premier, il était question effectivement de se fixer des objectifs pour faire respecter effectivement la date du 23 décembre pour qu'il y ait élection. Deuxièmement, on s'est dit que
Et à cet effet, qu'est-ce que vous comptez faire pour que cette date soit respectée?
Non, mais nous devons continuer à faire la pression derrière la CENI. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes au-delà du délai constitutionnel. On ne peut plus accepter parce que nos différents militants, nos différentes bases exigent à ce que les élections s'organisent pour se désigner de dirigeants qui vont gérer de manière démocratique ces pays. Alors nous devons faire nous devons montrer à la CENI que elle n'a plus le droit à l'erreur, elle n'a plus le droit à nous amener encore à un autre glissement. Elle doit tout faire, mettre en œuvre effectivement avec l'accompagnement du gouvernement, puisque c'est lui le gouvernement qui doit disponibiliser les moyens, mais la CENI doit faire à ce que son calendrier soit respecté pour que nous puissions avoir des élections au 23 décembre 2018. Et au-delà de ça, nous l'avions dit, nous allons voir mettre en place un cadre de concertation pour voir comment est-ce que nous allons gagner ensemble. Mais pour gagner ensemble, nous devons construire un projet. Nous devons construire un pacte républicain, un pacte social qui fera à ce que lorsque nous allons effectivement gagner, nous puissions gouverner ensemble de telle sorte que nos différentes bases puissent se retrouver. J'ai entendu le professeur Maindo dire que c'est une alliance contre nature. Le professeur Joly l'a dit. Aujourd'hui, même si nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, il y a la gauche qui gouverne avec la droite. Si nous voyons même en France, si déjà à ces niveaux-là, ces pays-là qui ont une culture, une tradition démocratique, acceptent de se rapprocher par rapport à leurs différentes idéologies, nous qui n'avions fait que copier ce que eux ont, pourquoi n'allons-nous pas accepter de nous rapprocher pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre en commun nos énergies, ce qu'on a en commun pour gérer. Ici, je dois dire que les libéralismes, si nous voyons les libéralismes, c'est plus une projection vers une création, vers la création de richesses. Et les socialismes, c'est effectivement mettre en place le mécanisme pour une redistribution de cette richesse.
Or, donc, nous avons la possibilité
de nous rapprocher pour se compléter, parce que aujourd'hui, pour que nous puissions mettre en exergue le projet qui privilégie le social, nous devons avoir des moyens pour effectivement subventionner les hôpitaux, les écoles et autres. Or, le libéralisme permet à ce que les capitaux, les nationaux puissent créer des entreprises, et ces entreprises-là permettront à ce que les pouvoirs, le côté social puisse faire payer des taxes pour essayer de financer le projet social.
Je crois
qu'il y a possibilité de faire une synthèse entre les deux idéologies pour aller de l'avant.
Pour être efficace, vous ne pensez pas qu'il aurait été rationnel que cette coalition puisse approcher aussi un parti qui a une assise réelle dans l'est du pays?
Non, mais je crois que nous sommes en train de les dire. Aujourd'hui, les MLC et les PALU se sont rapprochés et il y en aura d'autres. Il y a l'UNC, il y a d'autres partis, puisque la porte, elle est grandement ouverte aujourd'hui.
On parle de plus en plus de l'UNC. Est-ce que l'UNC a aussi adhéré à cette coalition?
Non, mais nous devons ici rappeler que l'UNC était déjà le premier à rencontrer les MLC. Ils ont échangé. Et si aujourd'hui nous nous sommes en contact, nous nous sommes rapprochés avec les MLC, on suppose ou on peut déjà dire que ce n'est pas impossible que nous puissions formaliser ces rapprochements avec l'INC qui était déjà en pourparler avec les MLC. Non, c'est pour dire que c'est une alliance qui n'est pas fermée qu'à ces partis-là. Il y a possibilité que d'autres rejoignent la dynamique pour que nous puissions construire un projet commun, un pacte qui mettra en confiance le peuple congolais.
Merci. Professeur Maindo, vous allez écouter cette réflexion qui vient de Bukavu Sud-Kivu.
Abamungu Balibouza depuis Bukavu. Je salue ce rapprochement entre les PALU et les MLC, signe d'une certaine maturité politique. Je loue également les efforts conjugués par l'autre aile de l'opposition, réunie récemment en Afrique du Sud sous le leadership de Moïse Katumbi. Il est bon que les partis politiques de l'opposition aient compris pour la première fois qu'étant en ordre dispersé, ils n'auront aucune chance de remporter les élections face à une majorité présidentielle soudée. Toutefois, j'encourage cette opposition à s'unir davantage en donnant au peuple congolais un seul candidat porteur d'un projet de société commun à toute l'opposition.
Professeur Alphonse Maindo.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec sur la partie qui concerne la difficulté de gagner l'élection si les opposants partaient en ordre dispersé. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit forcément se mettre ensemble. Pour se mettre ensemble, il faut que vous puissiez être capable de rapprochement. Je voudrais bien rappeler ici ce que dit la théorie des coalitions, puisque le prof Joly, qui est un constitutionnaliste, il connaît bien cette théorie de la coalition. C'est MCM, majorité connexe minimale. Donc là, ils mettent l'accent sur la majorité, mais ils oublient un élément essentiel qui est au cœur, qui relie les deux M, c'est connexe. Ça veut dire quoi? Les gens doivent être suffisamment proches pour pouvoir se réunir. Mais si vous êtes suffisamment éloignés, l'un est à droite, l'autre est à gauche, comment vous allez faire? J'aurais bien vu une coalition entre les centristes et les gens de gauche ou les centristes avec les gens de droite. Si vous prenez l'exemple de l'Allemagne, L'exemple de l'Allemagne, ce n'est pas une coalition préélectorale. C'est une coalition post-électorale. Puisque le peuple n'a pas, le souverain primaire n'a pas réussi à trancher entre les deux propositions qui étaient faites entre la gauche et la droite, alors les leaders élus sont obligés d'essayer de négocier pour trouver un programme commun. Mais vous avez vu les difficultés qu'il y a eu. Et ils sont passés par la case élection des militants pour voir s'ils acceptent ou pas et à quelles conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les MLC et les autres vont être capables de faire ce type d'opération, demander à leurs militants de donner leurs avis sur ça pour dire on accepte ou on n'accepte pas? Parce qu'il y a risque de congestion. Si vous mélangez des choses qui ne sont pas mélangeables, vous risquez d'avoir une constipation. Et quand vous avez une constipation politique, c'est la mort aussi politique qui peut s'en suivre. Et donc, je pense qu'il faut que les gens soient quand même un peu plus regardants quand ils veulent faire les coalitions pour gouverner. Et je voudrais ici évoquer notre ami Klaus von Bein. Et je pense que mon collègue Ndjoli, qui est aussi constitutionnaliste, connaît bien sa théorie sur la formation du gouvernement. Il a étudié plusieurs formes de gouvernement et il a dégagé 5 principes qui président à la formation du gouvernement. Il y a les principes de la majorité, c'est ce qui est souligné ici, mais il y a aussi les principes de pluralité. Et donc, ici, c'est quoi? C'est le parti qui a la majorité relative, pas forcément majorité absolue, qui va s'appuyer ou non sur d'autres partis pour gouverner. Donc, on peut avoir ça. Il y a également les principes de la plébiscitaire. C'est le parti qui va dégager le plus de votes par rapport à l'élection antérieure, c'est la plus forte poussée électorale qui peut constituer le gouvernement, ou l'autre principe de gravitation, c'est le parti qui est placé le mieux, et qui se trouve au centre d'une coalition, qui va alors former le gouvernement. Alors donc on voit là, il y a plusieurs principes et qui peuvent organiser la mise en place d'un gouvernement. Donc il ne faut pas aller forcément pour faire ça. Mais il y a des forces sociales aussi. Pourquoi ne pas faire un rassemblement avec des forces sociales qui partagent les mêmes idéaux, qui sont plus proches de vous, si vous voulez, des idéaux similaires, plutôt que d'aller faire une coalition avec des partis politiques, des forces politiques, qui n'ont pas forcément les mêmes visions ou la même conception du monde que vous. Il ne faut pas forcer les choses.
Professeur Baino, nous allons commencer par, n'est-ce pas, conclure. Et comment vous entrevoyez la configuration du paysage politique congolais avec cette tendance au rassemblement?
Oui, alors avec cette tendance au rassemblement, ils sont en train de voir qu'on va aller vers si vous voulez, deux grands blocs. On va avoir un bloc qui va constituer, je ne sais pas comment on appellera ça, d'un groupe et de ceux qui sont aujourd'hui en train, disons, je pense que ça, le groupe qui sera constitué de ceux qui sont au pouvoir, et de l'autre, on aura le groupe de ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui vont essayer de se mettre ensemble pour aller, pour gagner les élections. Mais, et là, on va encore oublier toutes les idéologies des partis, hein, et ça me ramène à penser que nos partis politiques au Congo ne sont pas des partis politiques au sens classique du mot. Il faut donc qu'on repense notre science politique par rapport à cette réalité, hein. C'est autre chose.
Merci, je considère ça comme votre conclusion, professeur Jacques Joly. Quels sont les atouts, n'est-ce pas, que vous avez, cette coalition MLC-PALOU, face aux prochaines élections?
Mais je pourrais partir là où Alphonse s'est arrêté. Il faut repenser la science politique africaine. Et la science politique congolaise a de constantes. C'est-à-dire, nous sommes un pays où les idéologies peuvent exister, mais ces idéologies fonctionnent dans un ancrage sociologique particulier. En 2006, il y a eu une rupture entre l'Est et l'Ouest. Le PALOU a essayé de ressouder ça. Malgré cela, aucun parti en République démocratique du Congo ne parvient à couvrir l'ensemble du territoire. Même les MLC ou le PPRD, il y a des circonscriptions que ces deux partis ne peuvent pas. Donc, en conclusion, nous estimons que aujourd'hui, il est important que chaque parti d'abord fasse son travail. Et nous sommes dans une coalition où nous ne prenons pas des individus qui n'ont pas d'ancrage. Il faut être un parti, Merci. Il faut être un regroupement. Merci. Et nous allons constituer une coalition comme ça a toujours existé, Merci. S'il faut le faire pour gouverner ensemble et changer les Congos.
Maître Blanchard, votre conclusion?
Oui, ma conclusion, je dirais que le plus important ici, c'est de voir ce que le peuple attend de nous. Parce que lorsque le peuple s'est plaint pour les infrastructures qui ne sont pas construites, lorsque le peuple s'est plaint pour l'énergie qui n'est pas redistribuée au niveau du fin fond de la province, le peuple ne voit pas les idéologies. Merci. Donc nous devons nous battre pour construire un projet qui mettra le peuple congolais à l'aise au-delà des non-idéologies politiques.
Merci, c'est la fin de cette émission. Bonjour de programme sur Radio Capi.